Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 20h, nous sommes le jeudi 23 avril, et comme tous les jeudis, une semaine sur deux, vous écoutez le journal radiophonique amplifié sur Transistor. Toute l'équipe s'est réunie ce soir autour de l'actualité. Au programme, la gestion de l'épidémie en France et dans le monde, des nouvelles de Viktor Orban en Hongrie, un retour en Italie, de la musique, du sport, de l'économie, bref. Comme d'habitude, c'est l'heure de l'actu mixée, égalisée, montée et toujours aussi dématérialisée qu'amplifiée. Et on commence ce journal avec le National, avec Rémi qui nous emmène à Villeneuve-la-Garenne.
Violence policière, oui, à nouveau à la une de notre journal, des violences qui se poursuivent plus que jamais pendant ce confinement, et c'est à Villeneuve-la-Garenne en effet que nous allons cette fois-ci, et où des agents de police ont grièvement blessé un jeune motard en ouvrant une portière de voiture sur son passage le week-end dernier. Alors que le jeune homme Moody C est hospitalisé et que l'IGPN est saisi, l'attention a franchi un palier depuis plusieurs jours dans les banlieues. Dimanche soir, Villeneuve-la-Garenne s'est embrasée et la nuit s'est émaillée d'affrontements avec la police, feux d'artifice et voitures incendiées contre lacrymogènes et LBD. Le journaliste Taha Bouafs, présent sur place, a été interpellé puis relâché. Et alors que les conditions du confinement des classes les plus défavorisées sont bien souvent passées sous silence, les élus locaux alertent sur la situation de tension que vivent les banlieues. Tous les jours, je cite, dans les quartiers, on frôle le point de rupture, lance le maire de Clichy-sous-Bois dans Le Monde. De leur côté, les forces de l'ordre vendent sur internet les mérites de la Sainte Portière, devenue un mème sur les groupes Facebook de policiers, deux salles, deux ambiances.
Et il est temps de retourner à l'école. Suite à la prise de parole du président le 13 avril dernier, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé ce lundi son plan de réouverture des écoles, tant attendu. Dans son allocution, Macron envisageait en effet une reprise pour les élèves à partir du 11 mai, dans 3 semaines. Cette reprise sera, selon le plan du ministre de l'Éducation nationale, progressive, étalée sur 3 semaines. Les plus petits mèneront la danse avec une reprise le 11 mai, pour les grandes sections CP, CE et CM. Puis viendront les collégiens et enfin les lycéens. Car tout le monde sait bien maintenant que les plus petits résistent mieux au virus. Cette reprise se fera également sur la base du volontariat. Les parents ne seront pas obligés d'emmener leurs enfants à l'école. Dans tout ça, ce plan reste en réalité très flou. Les députés de la majorité sont divisés et s'inquiètent pour l'image du président, dans le cas où cette reprise provoquerait la seconde vague du virus attendue par les scientifiques. Et s'inquiète aussi, accessoirement, pour les vies des 16 millions d'enfants et du million de professeurs, qui eux n'auront vraisemblablement pas le choix, concernés par cette reprise. Comment assurer une continuité pédagogique pour les élèves qui choisiront de rester chez eux? Comment répondre à la demande de masques que cette reprise va provoquer? De nombreuses questions restent aujourd'hui en suspens.
Cafard, moisissure provoquant parfois de l'asthme, punaise de lit, laverie fermée, ménage qui n'est quasiment plus fait dans les parties communes, voilà le lot des 126 étudiantes et étudiants confinés à la résidence Mermoz du Crous de Lyon, selon une enquête de Mediacité qui met en lumière les conditions parfois désastreuses dans lesquelles les étudiants sont aujourd'hui confinés. Fortement atteinte par l'arrêt de l'économie, la population étudiante doit en outre composer avec la continuité pédagogique, alors qu'un étudiant sur 4 ne dispose pas aujourd'hui d'une connexion internet suffisante, selon l'Union syndicale L'Alternative. Face à la timidité des mesures gouvernementales qui se limitent à faire peser la prise en charge de la situation sur les établissements, les étudiants s'organisent dans de nombreuses villes, comme à Lyon où un collectif de solidarité étudiante a vu le jour pour distribuer des produits de première nécessité. Une situation qui ne pourra pas durer, alertent aujourd'hui les organisations étudiantes. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a adopté mardi une motion appelant à neutraliser les évaluations pour limiter les effets des inégalités face au confinement. Une proposition d'ores et déjà écartée par la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal.
Et on s'envole maintenant vers l'international, Et Rémi va nous lire une brève écrite par Marie sur l'Iran.
Alors que le monde entier est tourné vers la gestion de la pandémie de Covid-19, l'armée iranienne a annoncé ce matin la mise en orbite de Nour, son premier satellite militaire. Le lancement dont se sont vantés les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, inquiète fortement les États-Unis. Il a été réalisé grâce à une fusée d'un genre nouveau qui témoigne d'une maîtrise des technologies nécessaires à la mise au point des missiles de longue portée. Israël et les États-Unis ont immédiatement dénoncé une violation de l'article 213 du Conseil de sécurité de l'ONU et le secrétaire d'État américain a déclaré que l'Iran devrait, je cite, « rendre ses comptes ». Un épisode de plus dans la série des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Tout récemment, les États-Unis ont dénoncé un incident entre navires américains et vedettes iraniennes dans les eaux du Golfe. Et Donald Trump aurait hier donné l'ordre de détruire toute embarcation iranienne harcelant les navires américains dans le Golfe. La grande réalisation nationale que célèbrent les Iraniens risque donc fort de mettre de l'huile sur un feu déjà brûlant, alors que l'Iran fustige des sanctions américaines qui l'empêchent de faire face au Covid-19. Affaire à suivre.
Et j'aimerais vous parler des États-Unis. D'abord, pour resituer, les États-Unis sont aujourd'hui le premier pays touché par le coronavirus, avec un nombre de contaminés avoisinant les 850 000 et plus de 45 000 morts au dernier recensement. Et c'est bien en ce même pays que naissent en ce moment même les mouvements de protestation contre le confinement. Beaucoup de monde a vu passer sur les réseaux cette pancarte sur laquelle on pouvait lire « confinement égale terrorisme ». C'est dans ces manifestations réunissant quelques centaines de personnes au New Hampshire, Maryland et Texas notamment, que ces anti-confinements se retrouvent. Les chiffres annoncés par le gouvernement mentent. Le confinement est contraire aux libertés fondamentales protégées par la Constitution. Les raisons de se rassembler ne manquent pas. Et puis, pourquoi s'inquiéter d'être contaminé si le virus n'existe tout simplement pas? Parce que s'arrêter là serait faire la moitié du chemin, ces manifestations reçoivent le soutien de nombreux hommes politiques, Trump ayant même sous-entendu qu'il s'y ralliait en estimant que certains gouverneurs étaient allés trop loin. Mais après tout, comment s'étonner de ces révoltes? La pauvreté tue aussi bien que le corona, clament les manifestants, dans un pays où très peu d'aides sont prévues pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Ces manifestations révèlent la peur des citoyens qui ne font plus confiance à l'État qui leur impose les lois. Et nous allons maintenant parler de pétrole avec Victor qui lit une brève de Marie encore.
La baisse est historique. Hier, le prix du baril de pétrole brut est passé en dessous de 0 euro. Et ce, malgré le récent accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour réduire la production. Alors pourquoi une telle baisse? Eh bien parce que personne ne veut acheter de pétrole à court terme. La demande devrait chuter de 30% dans le monde en avril. Et certains sont prêts à le vendre à perte, car ils n'ont nulle part où stocker l'or noir et veulent absolument s'en débarrasser au plus vite. La conséquence, si les États-Unis et la Russie devraient pouvoir absorber le choc, ce dernier devrait durement frapper des pays comme le Venezuela ou l'Iran, mais également l'Algérie et l'Irak, extrêmement dépendants de leurs exportations pétrolières et déjà confrontés à d'importants mouvements de contestation. La population ne semble pas prête à accepter des mesures d'austérité de la part d'un régime toujours plus contesté. Même inquiétude pour les dirigeants des États pétroliers africains comme le Cameroun et le Gabon, dont le pouvoir repose sur la rente pétrolière.
Et on part en Asie. L'Asie compte désormais un tiers des cas de Covid-19 enregistrés dans le monde, alors qu'on pensait l'épidémie sous contrôle. La région fait face à une deuxième vague de contamination, souvent liée à des cas importés. Singapour a interdit les visites de courte durée. La Thaïlande a enregistré 188 nouveaux cas ce week-end. Et le nombre de cas a presque doublé à Hong Kong en une semaine. Plusieurs États craignent un pic épidémique provoqué par les personnes asymptomatiques non testées et des gestes barrières de moins en moins respectés. Au Japon, par exemple, pays le plus touché d'Asie, le nombre de cas a flambé après le 20 mars, quand la population s'est réunie pour l'équinoxe de printemps. On soupçonne également le Premier ministre Shinzo Abe d'avoir minimisé l'ampleur de l'épidémie pour justifier l'organisation des JO. En Chine, deux nouveaux foyers ont fait leur apparition, dont un situé près de la frontière russe. Il faudra donc éviter la saturation de systèmes de santé déjà fragiles et éviter une flambée non maîtrisée. Et ce sera tout pour le journal aujourd'hui. On passe à un billet d'ici présenté par Nicolas qui portera sur le confinement en résidence étudiante.